Je suis intéressé que vous posiez cette question de langue nationale parce qu'elle me semble tout à fait déterminante dans le type de rapport qu'on peut aujourd'hui entretenir avec une littérature. Si vous voulez, il me semble que cette question nationale fonctionne de deux façons, selon le point de vue qu'on peut avoir. Elle fonctionne d'un point de vue que je dirais traditionnel dans l'histoire de la culture, et elle fonctionne d'un point de vue extrêmement différencié, selon moi, à partir du moment où on entre dans ce que j'appellerais la culture moderne. Si on prend, pour les Américains, la question de la langue nationale, on a évidemment un double problème qui se pose. On a, je dirais, à la fois un problème d'appropriation et en même temps un problème d'expropriation. C'est-à-dire qu'il est évident, et toute la littérature américaine, moderne et contemporaine le manifeste d'une façon ou d'une autre, l'Américain est d'abord un pionnier, n'est-ce pas ? Il est un pionnier sur son sol. Il est un pionnier et il est d'abord, avant d'être un Américain, il est un émigrant, n'est-ce pas ? Or, il me semble, si vous voulez, selon moi, qu'on ne peut pas séparer, d'une certaine façon, la question de la langue de la question de l'origine familiale. Et je crois qu'à partir du moment où on aborde la littérature américaine, cette question se pose de façon extrêmement cruciale. Elle se pose chez un certain type d'écrivain comme appropriation de la langue anglaise et chez un autre type d'écrivain comme question constante à l'intérieur de la langue anglaise. C'est-à-dire comme question, et pour ce qui concerne Pound, c'est flagrant, n'est-ce pas, comme question de tout ce qui peut être supporté comme culture par son rapport, par le rapport de Pound, à la langue. C'est-à-dire que, si vous voulez, que d'une certaine façon, l'œuvre de Pound, selon moi, dans sa modernité, c'est une œuvre qui fonctionne sous le double effet de l'immigration. Le passage en Amérique et le retour sur l'Europe. Le retour avec fantasme culturel très 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 fort. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, l'œuvre de Pound m'intéresse aussi énormément parce qu'elle manifeste aussi, selon moi, quelque chose qui concerne toute la littérature moderne, c'est-à-dire qui peut aussi bien concerner l'œuvre de Pound, qui va concerner un Américain, que ce qui peut concerner, par exemple, l'œuvre de Joyce, un Irlandais, n'est-ce pas ? Ou que ce qui peut concerner même d'autres œuvres d'écrivains européens, qui est, selon moi, la question que ces écrivains modernes rencontrent, qui est la question d'une synthèse culturelle, n'est-ce pas ? Au début de ce siècle, et pour notre culture moderne à nous, me semble-t-il, la grande question qui est soulevée et que les écrivains rencontrent aussi bien dans leur langue, c'est la question de cette synthèse culturelle. Or, la position de Pound, là, va être extrêmement ambiguë. N'est-ce pas ? Elle va être extrêmement ambiguë parce que, précisément, tout son effet de synthèse culturelle fonctionne sur une nostalgie culturelle. N'est-ce pas ? Ça n'est pas la culture américaine qui porte l'œuvre de Pound à cet effet de synthèse, c'est la culture européenne occidentale, avec des effets de déplacement sur la Chine, n'est-ce pas ? Mais c'est quand même, d'une certaine façon, l'origine de la langue vulgaire en Europe qui fait prise à cette synthèse dans l'œuvre de Pound, n'est-ce pas ? C'est, d'une part, bien entendu, les littératures romanes, et d'autre part, très évidemment, Dante. C'est-à-dire l'arrivée des Vulgari Eloquentia en Europe à travers Pound et à travers le rapport qu'il entretient à ses littératures romanes et à Dante. Donc, si vous voulez, l'effet qui est produit là est un effet qui, selon moi, dans l'histoire, rencontre lui-même ses propres limites. N'est-ce pas ? Ce sont des limites de reconstitution nostalgique d'une culture.
une nostalgie qui, si on en croit ce canto 45, rencontre la nostalgie de l'argent, enfin, et même la dénonciation de l'argent.
Alors, si vous voulez, pour en revenir précisément à cette question de la nostalgie, et à cette question, si vous voulez, je dirais des erreurs ou des manques à la ponctuation culturelle chez Pound, n'est-ce pas, une ponctuation culturelle moderne chez Pound. On a effectivement au centre de l'œuvre de Pound, faisant fonctionner à la fois l'ensemble de l'œuvre et je dirais même la subjectivité de l'auteur, cette notion d'usura, d'usure, et cette dénonciation de l'usure sur des bases économiques qui restent entièrement à questionner, n'est-ce pas, qui sont étroitement rationnelles et assez superficielles. Dans un entretien en 1962, que lorsqu'il avait 8 ans, il a assisté à un spectacle qui, selon lui, a été tout à fait déterminant de son rapport à l'économie et à l'argent. Et il le décrit de la façon suivante. J'assistais au spectacle de cet argent qu'on transportait à la pelle, comme si c'était du fumier, avec ces types nus jusqu'à la ceinture qui le remuaient à la lumière des lampes à gaz. Et il ajoute, ça vous frappe l'imagination. Bien, si vous voulez, selon moi, on a là un souvenir, et il a 77 ans lorsqu'il le rapporte, c'est un souvenir qui tient, n'est-ce pas ? On a là un souvenir qui est, à mon avis, tout à fait déterminant du type de rapport subjectif que Pound entretient avec l'usure, avec l'économie et à travers cela, avec son œuvre même. C'est-à-dire qu'on a, selon moi, ce que j'appellerais un souvenir écran. Quelque chose devant le spectacle de cet or transporté à la pelle par des hommes à moitié nus, a fait écran à une relation beaucoup plus profonde que l'enfant Pound pouvait entretenir à ce que l'argent représente symboliquement, à savoir les fesses. À partir de là, n'est-ce pas ? À partir de là, je dirais que d'une certaine façon, l'œuvre entière de Pound est construite en réaction contre ce que ce souvenir dit tout en le dissimulant. À savoir que le rôle, comme le dit Freud, n'est-ce pas, le rôle de l'argent est étroitement lié aux fesses et qu'à partir de là, par la même occasion, tout souvenir qui vient ponctuer et dramatiser ce type de rapport est un souvenir qui vient faire barrage chez l'individu à une pulsion précise, spécifique et tout à fait déterminante dans la construction psychique d'un individu, qui est la pulsion anale. Je dirais, si vous voulez, que le caractère qu'on peut dire réactionnaire d'une certaine partie de l'œuvre de Pound, au niveau du sens, n'est-ce pas, eh bien, est entièrement déterminé par ce souvenir enfantin. C'est pas moi qui ai remarqué ça. Ce qui m'a mis sur cette piste, ce qui m'a indiqué ce type d'accentuation qu'on pouvait trouver dans l'œuvre de Pound, ou en tous les cas cette clé subjective de l'œuvre de Pound, c'est Eva Hess qui m'a permis de m'assurer que je n'étais pas sur une mauvaise voie, n'est-ce pas? Eva Hess note que pour bien comprendre la nature du rapport que Pound entretient à ce qu'il dénonce sous le nom d'Usura, il faut se reporter au 11e chant de l'enfer de Dante, qui est un chant d'ailleurs que Pound cite dans les cantos, n'est-ce pas? Et à ce 11e chant de l'enfer de Dante, les usuriers se retrouvent avec les sodomites. Et si vous reprenez le cantos que j'ai lu tout à l'heure, eh bien vous retrouvez à la fin du cantos précisément l'usura mise dans une situation de rapport sexuel. N'est-ce pas? Vous avez d'abord ce qui fait remonter d'une certaine façon le rapport à ce souvenir écran très très haut selon moi dans la subjectivité du poète. L'usure frappe l'enfant dans le ventre de sa mère. Elle frappe le jeune homme qui fait sa cour. Le paralyse dans la couche nuptiale. Autrement dit, elle est responsable de l'impuissance sexuelle. L'usure s'étend entre le mari et sa jeune épousée. Contra naturam. N'est-ce pas? Donc, non seulement Pound reprend dans un autre canto le 11e chant de l'enfer, où les usuriers se trouvent avec les sodomites, mais encore dans ce canto sur l'usure, il présente l'usure comme ce qui est contre nature. N'est-ce pas? C'est lié à la nature même. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse là, d'une certaine façon, c'est que on a d'un côté une démonstration apparemment rationnelle et convaincante d'un style d'économie tout à fait puéril, à savoir c'est l'usure qui est responsable de tous les malheurs du monde, n'est-ce pas? C'est rationnel, c'est clair, c'est convaincant. Et de l'autre côté, on a à ça un support subjectif extrêmement complexe et extrêmement archaïque. Et ce qui m'intéresse là énormément, si vous voulez, c'est que on va rencontrer en même temps, à partir de ces deux structures, la consciente explicite et l'inconsciente implicite, on va rencontrer un autre type de dénégation qui pour moi est extrêmement important de ce point de vue, à savoir la religion. Parce qu'il est évident que pour nous autres, occidentaux, si on soulève cette question de l'usure, on est forcé de prendre en considération immédiatement, d'un point de vue historique, le rapport et le conflit qui a lieu entre la religion catholique romaine et la religion protestante, n'est-ce pas? C'est un des grands moments du conflit entre le protestantisme et le catholicisme, que c'est le protestantisme qui, le premier, reconnaît l'usure comme n'étant pas un péché. Mais Pound n'aborde pas ce problème. Et il va même beaucoup plus loin dans cette perspective. Et à mon avis, toute l'œuvre, n'est-ce pas, de quelque point de vue, toute l'œuvre, de quelque point de vue qu'on la prenne, est lié à ce refoulement spécifique. Parce que non seulement elle est centrée autour de cette question de l'usure, mais en même temps elle est centrée autour de la volonté, de nier l'effet culturel de l'Ancien Testament et de remplacer cet effet culturel par les métamorphoses d'Ovid. Voire, lorsque forcément, dans la pression que le poète subit de par sa volonté de ressaisir tous les événements culturels qui, grosso modo, tournent d'ailleurs autour de la Renaissance, n'est-ce pas ? Les événements positifs sont des événements qui tournent autour de la Renaissance dans l'œuvre de Pande. Eh bien, dans cette volonté de ressaisir tout cet impact culturel, bien évidemment, il rencontre de la religion partout, il rencontre de l'Ancien Testament partout, il rencontre du Nouveau et de l'Ancien Testament partout. Donc, sa première réaction, c'est d'abord de s'en référer, et il rencontre les deux, très évidemment, chez Dante, hein, en premier lieu, n'est-ce pas ? Et sa première réaction, ça va être tout d'abord de s'en référer à Ovid et aux métamorphoses, et sa seconde réaction, qui est son rapport, à mon avis, extrêmement ambigu à la Chine, n'est-ce pas ? Ça va être de choisir la culture chinoise contre la culture juive et chrétienne. C'est-à-dire que Confucius va venir là pour boucher complètement l'horizon et les questions qui pourraient se poser à lui s'il tirait le fil de cette culture, n'est-ce pas ? Ce qui explique, si vous voulez, alors, le rapport de Pande à la Chine, d'une part, le rapport de Pande, et ça ce serait peut-être trop long à développer, à sa langue elle-même, n'est-ce pas, aux qualités de modernité de sa langue, et le rapport de Pande à la politique. Si vous voulez, ça explique, par exemple, l'antisémitisme de Pande, d'une certaine façon. Tout est construit en fonction de cette dénégation où la notion d'usure vient faire, comme j'ai essayé de l'expliquer, symptôme. Money.
Yeah.